Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joder, le 20 février 90.
Vous commencez à être fatigué de la topique sur la personne. C'est les bruits de couloir, vous savez. Alors, on va peut-être aller plus vite. Mais c'est quand même très important. Et d'essayer. Il faut comme ça un leitmotiv pour comprendre bien ce que représente notre pensée occidentale. Voir comment la montée à partir des pères de l'Église avec ces grands théologiens. Il faut quand même situer Albert le Grand, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Henri de Gand, Don Scott, Octave, Suarez. Alors ça se termine avec Suarez. Parce que c'est vrai qu'avec Suarez, on entre dans une attitude où il y a vraiment une baisse terrible au niveau de la pensée. Il y a un souci d'éclectisme. Sauver, les intentions sont très très bonnes. C'est pour ça qu'il peut être bien heureux. Ses intentions sont très très bonnes. Sauver la pensée de saint Thomas du naufrage au Camien. C'est ça l'intention de Suarez. Sauver de la pensée, au-delà d'Occam, sauvons la métaphysique de saint Thomas. Il ne voit pas qu'en voulant sauver la métaphysique de saint Thomas, de fait, il lui donne une signification très différente. Et c'est très vrai que pour lui, c'est tout de suite le point de vue du suppôt, de la substance première, du sujet, qui va dominer. Il faut croire que pour la question de la personne, c'est bien cela. On peut dire que Suarez cherche à dépasser la perspective purement logique, celle d'Occam, en découvrant dans la ratio subsistendi, donc dans la raison de subsister, de la nature spirituelle, quelque chose de propre à la personne, qui la distingue du suppôt. Cela lui permet de définir la personne sans regarder explicitement la nature spirituelle. Mais en cela même, il demeure sous l'influence d'Occam. Je ne veux pas entrer plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, nous allons entrer dans ce que représente notre philosophie européenne. Et il serait très intéressant de voir comment, dans cette philosophie qui commence avec Descartes, voir comment la personne va petit à petit s'amenuiser. Alors regardons Descartes, puisque Descartes c'est quand même connaître Descartes. On l'a tous connu dans les études philosophiques qu'on a faites. Forcément, Descartes reste un dieu pour la France. Moins maintenant. Quelque chose de très intéressant à lire, c'est la manière dont Sartre juge Descartes. Parce que Sartre est malin. Et il fait ça dans la préface de la nouvelle édition, il y a déjà 30 ans comme nouvelle édition, sur les œuvres de Descartes dans les philosophes de l'esprit. Alors, le discours sur la méthode, il y a une préface de Sartre extrêmement intéressante sur Descartes. Il dit ouvertement, si Descartes était né curieux, mais c'est très intéressant. Parce que c'est malin, c'est pas bête du tout. Il saisit certains points de vue de Descartes, il les pousse. En montrant que si Descartes vivait notre époque, il serait athée. Parce que on peut pas avoir d'idée d'infini et d'idée de Dieu. C'est contradictoire. Ce qui est assez juste. Vous n'avez pas d'idée de Dieu. Vous n'avez pas d'idée d'infini. Alors, tout Descartes repose sur l'idée d'infini et l'idée de liberté. Et donc il y a une contradiction latente chez Descartes, ce qui est juste aussi. Parce que Descartes veut tout ramener à des idées claires, alors qu'on ramène tout à des idées claires. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas atteindre avec des idées claires. Tout ce qui nous dépasse. On ne peut atteindre que soi-même avec une idée claire. Et on voit quand même elle est claire. Et pas une idée claire de vous, quoi. Je sais pas, à moins d'être très purifié. Après une retraite, on a une idée claire de soi. Chez Descartes, le problème de la personne n'est pas explicité. Je crois qu'on peut le dire. Ceux qui connaissent très bien Descartes, parmi vous, et qui découvrent une idée de personne chez Descartes, qu'ils me le disent. Je ne suis pas un spécialiste de Descartes, mais j'en ai lu quand même un peu, et pas mal. Bien, je crois qu'on peut dire que le problème de la personne n'est pas explicité. Alors, vous voyez, c'est très différent. Chez Aristote, le problème de la personne n'est pas explicité. Mais il n'a pas été explicité avant lui. Tandis que Descartes, lui, il vient après les grands théologiens. Il vient après Suarez. Puisque Descartes a eu comme professeur de philosophie des disciples de Suarez, des Suarésiens, à la Flèche. Et donc, sa philosophie est quand même en dépendance de Suarez. Je sais très bien qu'il veut tout renouveler. Et qu'il veut donner une nouvelle philosophie. Comme il veut donner une nouvelle théologie. Mais il y a quand même toujours le point de départ. La personne se ramène en réalité à la substance pensante saisie dans le cogito. Ça, je crois qu'on peut le dire. La personne, c'est le cogito. La personne est vue uniquement à travers le cogito, la substance pensante. Il nous dit ceci, « Mon essence consiste en cela seul, que je suis une chose qui pense, ou une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser. » Il dit ça dans la sixième méditation. Descartes emploie parfois, mais très rarement, le mot « suppos ». Par exemple, lorsqu'il écrit à Mersenne, au sujet d'Hobbes, « Ses derniers raisonnements sont aussi mauvais que tous les autres que j'ai vus de lui. Car premièrement, encore que l'homme et Socrate ne soient pas divers, divers suppos. Toutefois, on signifie autre chose par le nom de Socrate que par le nom d'homme, à savoir les différences individuelles ou particulières. » Donc, le mot suppos est très peu employé, mais on pourrait dire c'est le mot substance. Et alors vous voyez tout de suite la différence. La substance telle qu'Aristote la saisit. Et tel que Descartes a saisi. Ça, c'est très important, saisir ça. Le décalage. Pour Descartes, on saisit tout de suite les deux substances, la substance pensante et la substance quantitative, physique. Donc, on ne saisit pas la ratio substantielle, mais uniquement la manière dont la substance existe, comme une substance pensante, et une substance physique. Donc c'est uniquement la manière dont elle existe. Voyez, pas de substance principe. On saisit que le pose, le comment. Et ça, c'est très caractéristique de toute la philosophie Descartes. Il n'y a plus de principe propre de la philosophie chez Descartes. Mais il y a des descriptions. Il y a des définitions. Il y a des idées. Dans cette substance, ni le corps, ni les passions ne sont intégrés. La substance pensante. Le corps est extrinsèque. C'est pas votre moi, le corps. C'est un petit appendice qui s'ajoute. Là, on peut le couper, faire une opération chirurgicale, et faire que ça tombe. L'essentiel, c'est qu'on continue de penser. Alors, je ne sais pas ce que devient la substance pensante quand on dort. On continue de penser. Et si Descartes affirme l'union substantielle de l'âme et du corps, n'est-ce pas plus en raison de la tradition chrétienne et de la théologie qu'en raison d'une position proprement philosophique? C'est ça que souligne Sartre. C'est pas cette phrase, hein. Et il souligne quelque chose comme ça, c'est qu'il est dépendant d'une tradition chrétienne, mais que cette dépendance d'une tradition chrétienne est extrinsèque à sa pensée propre. Puisque sa pensée propre, c'est l'idée. Dans la théodicée, donc vous voyez que pour Descartes, ça reste quelque chose de très, très difficile à préciser. Théodicée, Leibniz rappellera qu'en dépit de l'opinion des philosophes de l'école, qui croyaient qu'il y avait une influence physique réciproque entre le corps et l'âme, depuis qu'on a bien considéré, dit-il, que la pensée et la masse étendue n'ont aucune liaison ensemble. Voilà la pensée de Descartes. Et le jugement de Leibniz sur Descartes. Qu'il considère comme un grand tournant dans la pensée pour comprendre le lien du corps et de l'âme. C'est pour ça que ce passage de Leibniz est intéressant depuis qu'on a bien considéré que la pensée, le cogito, et la masse étendue, la substance physique quantitative, n'ont aucune liaison ensemble et que ce sont des créatures qui diffèrent auto-générés, donc totalement par le genre. Plusieurs modernes ont reconnu qu'il n'y a aucune communication physique entre l'âme et le corps. Quoique la communication métaphysique subsiste toujours, qui fait que l'âme et le corps composent un même suppôt, ou ce qu'on appelle personne. Ça, c'est très intéressant comme affirmation. Ce qui prouve bien que dans le langage courant des philosophes de ce temps de Leibniz, considèrent que depuis Descartes, il y a ça, entre le corps et l'âme, aucune communication physique, mais une communication métaphysique. Recherchez. C'est très très joli. Vous savez bien comprendre ce que c'est que la métaphysique. Métaphysique. Donc, au-dessus de physique. C'est dit textuellement. Quoique la communication métaphysique subsiste toujours, qui fait que l'âme et le corps composent un même support. Il n'y a pas d'union physique. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça fait. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment très vite, la personne se définit par la conscience. Alors ça, on peut mettre ça. Il y a à partir de Descartes, tout un courant philosophique qui définit la personne par la conscience. Ça existe encore aujourd'hui. Vous voyez, dans la fameuse querelle à propos de l'avortement, il y a eu dans les études une série d'études pour montrer que la personne humaine, c'était la conscience. Et là où il n'y avait pas conscience, il n'y avait pas personne. Et donc l'embryon, n'ayant pas conscience, il n'y a pas de personne. Réduite implicitement chez Descartes à la substance pensante, la personne chez Locke sera définie uniquement par la conscience et non plus par la substance. Donc vous voyez, c'est intéressant à voir ça parce que vous voyez, substance individuelle, d'une nature raisonnable. Substance pensante, elle pense diversement selon différents lieux. Il y a quelque chose de commun. C'est que j'ai conscience de penser. Et donc, c'est la conscience qui fait la continuité. On retrouvera la même idée chez Husserl. La continuité. Et c'est assez proche du suppos, ça, vous voyez. Le suppos, c'est quand même ce qui fait l'unité. Ici, c'est la continuité. Entre l'unité et la continuité, il y a quelque chose de commun. Qu'est-ce que c'est que la continuité? C'est l'unité dans la durée. C'est ce qui dure dans la durée. Donc la personne, c'est ce qui dure. Et voyez que là, on retrouve quelque chose de commun avec l'idée de substance. Qu'est-ce que c'est que la substance pour Platon? La déesse qui demeure dans la maison. et c'est très intéressant parce que c'est par le point de vue de la propriété et non plus par la source qu'on va définir la personne. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui demeure? Et c'est vrai, quand vous vous réveillez le matin, il y a un trou avec le soir, si vous avez bien dormi. Pendant une continuité, c'est votre personne. Vous ne vous posez pas la question tous les matins, est-ce que c'est bien moi, hier au soir, qui me suis endormi? Si vous vous posez trop la question, c'est inquiétant. Allez tout de suite trouver le père maître. Parce que, je ne sais pas, depuis ce matin, je me demande si c'est bien moi qui me suis endormi hier au soir. Et pour l'unité du noviciat, c'est un petit peu gênant. Il y a un aspect ponctuel qui continue, mais il n'y a plus d'unité. La personne, donc, affirme Locke, est un être pensant, intelligent, qui est doué de raison et de réflexion, et qui peut se considérer comme lui-même la même chose pensante, en différents temps et lieux. Ce qui ne peut se faire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée et qui, me semble-t-il, lui est essentielle. Ce par quoi toute cette diversité de pensées s'unifie, c'est la conscience. Locke insiste sur le fait que dans l'identité personnelle, ce n'est pas la substance qui importe, mais la conscience, car différentes substances peuvent, par la même conscience, être unis en une seule personne. Ça, difficile à comprendre. Mettez-vous dans la peau de Locke, alors là, vous arrivez à comprendre. Je lis textuellement, c'est de lui. Ces différentes substances, car différentes substances, peuvent, par la même conscience, être unies en une seule personne. L'identité personnelle dépend de la seule conscience, que celle-ci soit annexée seulement à une unique substance individuelle, ou qu'elle puisse se constituer dans une succession de plusieurs substances. Je ne cherchez pas à comprendre. C'est incompréhensible. J'ai la même conscience que mon ami. Ça peut arriver. Donc, on est une seule personne. Deux individus, sans aucune espèce d'importance. On a la même conscience. Et ça va très loin, comme affirmation. Ça va très loin. Alors, ça, c'est amusant. Locke, c'est très amusant. C'est facile à comprendre, puisque c'est inintelligible. C'est très facile à comprendre. Il ne faut pas chercher, il faut prendre l'exemple. Locke donne, par exemple, le changement de corps naturel à corps spirituel. La même conscience étant gardée, que ce soit dans la même ou différentes substances, l'identité personnelle est sauvegardée. Commentant la manière dont Locke définit la personne, Leibniz se range à l'opinion selon laquelle la conscience où le sentiment du moi prouve une identité morale ou personnelle. Leibniz ne veut cependant pas dire que l'identité personnelle dépende des souvenirs. On ne peut pas dire « je ne suis point ce moi qui ait été dans le berceau » sous prétexte que je ne me souviens plus de rien de tout ce que j'ai fait alors. C'est vrai, vous vous souvenez, premier jour du berceau. Hein? Premier jour du berceau. On a pris une photographie, donc ça va. Mais de ce temps-là, on ne pouvait pas prendre de photographie. J'ai complètement oublié. Alors, est-ce que c'est la même personne? Pour l'identité par la conscience. Bon. De son côté, voyez les figures, moi, tous ces gens-là. Avoir la photographie de ces gens-là. Alors vous retiendrez plus facilement. Et vous étudierez leur morphologie comparativement à leur idée philosophique. De son côté, au-delà de la mode, parce que la mode, c'est joue beaucoup. De son côté, Berkeley dira que la personne est une chose consciente et que rien n'existe à proprement parler que des personnes. Toutes les choses ne sont pas tant des êtres que des manières d'exister des personnes. C'est très curieux, la manière d'exister des personnes, le Dasein. Déjà présent là un peu. La manière d'exister unique de l'homme. Au fond, il n'y a qu'une seule manière d'exister, vrai. C'est la manière dont une personne existe. Ayant le sens de son autonomie, ayant surtout le sens de sa conscience. À son tour, Wolf. Alors, Wolf, vous le saluez très bon. Wolf, c'est un très drôle de bonhomme. Parce que c'est un scolastique très particulier. Wolf, dans sa psychologie rationnelle, un très bon manuel. Parce que c'est Wolf, point de vue métaphysique, il ne faut pas oublier que Wolf a joué un très grand rôle sur Kant. Et quand Kant parle de la métaphysique, c'est Wolf. Il ne connaît pas plus. C'est pour ça que Wolf est intéressant au point de vue historique. C'est la rationalisation la plus complète de toute la philosophie. Donc c'est une scolastique effrénée au carré, Wolf. Il faut une fois se reposer dans Wolf. C'est un bon berceau philosophique. Rationnel, rationnel. Tout est rationnel, tout est mesuré, tout est déterminé de façon absolue. C'est le système parfait. Le système parfait. À son tour, Wolf, dans sa psychologie rationnelle, définit la personne ou individu moral comme l'être qui garde mémoire de lui-même. C'est-à-dire, se souvient qu'il est le même être qui, auparavant, fut en tel ou tel état. Donc, ce n'est plus la conscience. C'est la mémoire. Vous voyez, un être dure grâce à la mémoire. Donc c'est toujours bien la continuité. Alors ici, c'est la mémoire. C'est très curieux. Voyons, on tourne autour. On ne sait plus exactement ce que c'est que la personne. Être qui garde mémoire de lui-même, c'est-à-dire se souvient qu'il est le même être qui, auparavant, fut en tel ou tel état. Cette mémoire intellectuelle consiste dans le jugement qui juge que nous avons déjà eu auparavant la même idée. La personne, c'est... Vous voyez, c'est... Ce jugement de la même idée, ça se ramène presque à une idée. Le contenu de cette mémoire, c'est la même idée. J'ai la même idée de moi, maintenant qu'il y a 10 ans. Donc c'est la même personne. Wolf, cependant, reconnaît que la personne peut être dite substance vivante et intelligente. Mais pour lui, qu'est-ce que ça veut dire la substance? Et c'est ce qu'avait fait avec beaucoup d'astuces Gilson. Il faut une fois regarder ça quand vous étudiez Descartes. Prendre le petit dictionnaire que Gilson a fait sur les expressions de Descartes. Où il voit que toutes les expressions de la scolastique thomiste sont présentes. aspect logique évidemment très fort. Ensuite, autre conception de la personne, la conscience transcendantale. Alors là, vous voyez tout de suite où on se situe, c'est Kant. La conscience transcendantale. Vous savez ce que veut dire le transcendantal chez Kant, hein? Kant, il divise complètement la pensée en deux. L'expérience de la contingence. Pareil. On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Même Kant. Il faisait sa promenade tous les jours. Mais chaque jour, elle était différente. Avec le même chien. Mais c'était toujours différent. Pareil. Parce que c'était un homme très méthodique. Il avait un règlement de vie. Après le repas, la promenade avec le petit chien. Et toujours le même. Et toujours la même promenade. Donc il y avait le point de vue de l'expérience quotidienne. On donne les cours toujours à la même heure. Pas ici, vous savez rien. Mais c'est toujours la même heure. Parce qu'on n'est pas qu'ancien, c'est pour ça, vous n'avez pas encore compris. Et puis alors, il y a la conscience transcendantale. Toutes les idées transcendantales. Tout ce que nous portons en nous comme forme. A priori, qui sont la structure de l'esprit, au-delà de toute expérience. Alors on a la conscience transcendantale. Vous voyez, alors c'est pour ça qu'il y aurait quelque chose là aussi très intéressant à regarder. La différence entre la substance pensante de Descartes et la conscience transcendantale de Kant. Au début de son anthropologie, je dis en passant, le mot anthropologie, vous savez bien, c'est Kant qui l'a inventé. Donc quand vous parlez d'anthropologie, attention, vous avez toujours une petite nuance kantienne. Au début de son anthropologie, Kant définit la personne par la procession du je, dans la représentation, et par l'unité de la conscience. Je vous lis ce passage, hein, dans l'Anthropologie, livre premier, le début. Posséder le je dans sa représentation. Ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Posséder le je dans sa représentation. Représentez-vous le je, votre je, moi, je. Je ne sais pas si vous le faites de temps en temps. Durant l'oraison, posséder le je dans sa représentation. Ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. La tête de plus. Par là, il est une personne, et grâce à l'unité de la conscience, dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise, et ceci même lorsqu'il ne peut pas dire « je », car il l'a dans sa pensée. Même si vous ne dites pas « je », le « je » est présent dans la pensée. Donc la conscience transcendantale, au-delà de tous les changements. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, le « je ». Le suppôt intérieur, le « je », le suppôt transcendantal. Conscience dont parle Kant, en laquelle se révèle l'identité personnelle, n'est pas la conscience empirique, mais la conscience transcendantale qui précède. transcendantale que je porte en moi et que vous portez en vous n'a pas besoin d'apprendre la pensée transcendantale. Elle est a priori en vous. Vous êtes tous très intelligents, tenus de conscience transcendantale. Vous ne l'avez pas encore découvert, mais vous allez le découvrir. Vous avez en vous une conscience transcendantale qui domine infiniment tous les autres animaux. Et quelquefois aussi vos semblables. Parce qu'eux ne sont pas dans la conscience transcendantale. Tandis que si je suis dans... Ils restent empiriques. Vous pouvez dire ça quand vous voyez tous les gens au marché. Ils sont dans la conscience empirique. Ils regardent la carotte. Tandis que la conscience transcendantale, je... Moi, j'émerge. Je suis au-dessus de tous ces gens qui sont dans la conscience empirique. Là, c'est très curieux, Kant. Très, très curieux. Mais la conscience transcendantale qui précède toute expérience particulière et qui est la conscience de moi-même en tant qu'aperception originaire. Je me saisis dans ce qu'il y a d'unique. Et je suis seul à pouvoir me saisir dans cette aperception originaire. Parce que vous, vous me saisissez à partir du moment où je dis je suis. Tandis que moi, je me saisis antérieurement à ça, dans cette aperception originaire. Dans cette attitude réflexive, je saisis ce qu'il y a d'unique en moi. Ce qui est vrai, tu vois, c'est plus facile à penser, vous voyez. On comprend assez bien ça, une attitude réflexive sur ce qu'il y a de tout à fait originaire en moi. Cette conscience de soi qui, en produisant la représentation, je pense, doit pouvoir accompagner toutes les autres représentations et qui, une, est identique en toute conscience. Peut-être accompagnée d'aucune autre. Elle est originaire, donc elle est première. Elle est à l'état pur. C'est la conscience de la conscience, si vous voulez. C'est ce par quoi toute conscience existe. Vous voyez, le go, la continuité de toute la conscience. Vous trouvez toujours la même idée, sous des modalités très différentes. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir conscience que je suis ici, conscience que je fais un cours, conscience que vous vous écoutez. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que j'ai conscience transcendantale que je suis. J'ai pas pensé, mais ça fait rien. Maintenant, j'y pense. Et c'est grâce à cette conscience, a priori, que je puis avoir conscience de toutes les autres consciences. Et que je peux me représenter toutes les autres connaissances dont j'ai conscience. Cette conscience de soi dans la synthèse transcendantale du divers des représentations en général est simplement la conscience d'un pouvoir de synthèse de ces représentations a priori. Le coup, ce qui fait l'unité de toutes les autres consciences, ce qui permet toutes les autres consciences d'exister. Alors vous voyez, c'est très intéressant à voir, parce que vous avez non pas la recherche d'un principe, mais la condition sine qua non. Et ça, c'est la saisie de Kant. Kant est obsédé par la condition sine qua non. Qu'est-ce qui me permet de penser? Qu'est-ce qui me permet d'avoir conscience de tout ce que je vois? Ah, c'est qu'il y a une conscience primordiale, originaire, la conscience que moi je moi je suis. C'est très obsessionnel quand même, psychologiquement parlant. C'est terriblement obsessionnel. C'est quelqu'un qui devait se raccrocher à sa conscience transcendantale. Vous voyez, parce que là, personne ne peut m'attaquer. Je suis seul à saisir cette conscience originaire. Et tout le reste dépend de ça. C'est très curieux. Je crois qu'il y a très fort ça dans la pensée de tout cela. C'est que le progrès de la science déloge le philosophe. Alors, on lève les pourlevis. personne ne peut atteindre ma conscience. Alors je jette la poix. Tous ceux qui veulent m'attaquer, tous ces imbéciles qui sont dans la conscience empirique, moi je suis dans la conscience transcendantale. Je suis dans la chair de Moïse, conscience transcendantale. C'est extraordinaire. Personne ne peut m'atteindre. Je suis bien. On aime bien avoir un lieu où il n'y a plus de guêpe qui vous atteint. Il n'y a plus rien qui vous atteint. Vous êtes là tout à fait tranquille. Et si les autres vous jugent, non, vous ne pouvez pas me juger. Je pense. Je pense à moi. Mais le Bouddha, c'est très. C'est pour ça que c'est lié à l'idée religieuse. Hein. Quand fondamentalement, logique.